This is Afua Cooper, and you're listening to CKUT 90.3 FM.
Alô, alô, rapaziada! Salve o Clube do Balanço! Salve, salve, Matoli!
Vida ao clube, Simone, a casa é sua!
Muito obrigado!
Eu quero paz e arroz!
Amor é bom e vem depois!
Eu quero paz e arroz!
Amor é bom e vem depois.
Eu quero paz e arroz.
Amor é bom e vem depois.
Eu quero paz e arroz.
Amor é bom e vem depois.
Vai, se vira. Vai, se vira. Eu preciso de um cachorro. Eu preciso de um amigo. Os meus amigos me abandonaram, pensando que eu tivesse a perigo.
Eu quero paz e arroz.
Amor é bom ver depois.
Eu quero paz e arroz.
Amor é bom ver depois.
Eu quero paz e arroz.
Amor é bom ver depois.
Eu quero paz e arroz.
Amor é bom ver depois.
Vai, se verá. Vai, se verá. Pois além de um grande amigo, com carinho, que me fale de amor, das coisas belas da vida, das coisas lindas da paz, das coisas belas da vida, das coisas lindas da paz. Eu quero paz e arroz.
É.
Bonjour à tous, bienvenue au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis accompagné du seul et unique, du grand Manitou des ondes FM étudiantes de Montréal 514 représente, Marc-André Jutras. Comment vas-tu ce matin?
Je vais très bien, et toi?
Je pète le feu.
Moi aussi, hey, je suis un éternel étudiant. Je me fais souvent dire que je suis un éternel ado, mais là, tu viens de confirmer que je suis un éternel étudiant.
On est tous des éternels étudiants.
De la vie.
Il faut apprendre à tous les jours au moins une chose.
Nouvelle. Amen.
Donc, aujourd'hui, on va apprendre plein de belles choses, les amis.
Ben oui.
On va commencer avec la règle de Pythagore.
OK.
Sortez vos cahiers à la page 68.
Qu'est-ce que tu dis?
Non!
Fais attention,
on arrête.
Il y a un professeur avec nous en studio.
On a un public.
Sortir la règle, elle va nous taper, c'est ça.
C'est vrai.
Ouais.
Hey, c'est le 100e épisode, part 2 aujourd'hui.
Part 2.
Donc là, 100 épisodes du lendemain de la veille, ouais. Déjà. Le temps passe si vite. Et pelaille, hein?
Pensais-tu qu'on
est fatigué
si longtemps?
Vraiment pas.
Notre projet farfelu.
Non. Surtout que...
Dans un cabanon près de chez vous.
Oui, exactement. Dans le studio cabanon Pierrefonds.
Oui.
Et on remercie les gens de la station, hein?
Ben oui.
De nous laisser carte blanche à chaque semaine.
Pour dire tout ce qui nous passe par la tête. On remercie notre productrice. On remercie CKUT 90.3 FM, Jack... Et tout le monde qui nous ont aidés, je le redis, Ramon Vitesse a facilité notre entrée à CKUT.
Ramon.
Oui, Ramon, pour l'émission. Je remercie toutes les personnes qui sont venues et qui vont venir, tous les réalisateurs. C'est pas mal juste des musiciens et des réalisateurs, mais on les remercie. On aimerait savoir des artistes en art visuel. Puis on voudrait sortir le Boys Club. C'est tout le temps des des gars qui viennent.
Ah.
J'aimerais ça qu'il y ait des filles
oui.
qui viennent parler de leur passion musique, art visuel et tout ça. Fait que lâchez-nous un wax, ça vous tente.
Ouais.
Mais ben, je vous remercie. Ben, c'est ça, on avait eu dans le passé, dans une des centièmes émissions, on a eu Frank Kelly de Paradise. On a eu le grand Manitou de Voodoo Chango Experience. On a eu, qui d'autre qu'on a eu? Benoît Robitaille, le dessinateur de Grimmskunk et l'archéologue et le maître des tattoos. On a eu lui. On a eu récemment le réalisateur de Richelieu, que je remercie. Super bonne entrevue. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez toujours vous rattraper.
Oui, sur le site web de CKUT.
Oui.
Dans la programmation, le lendemain de la veille, on est là.
Oui, présent tout le temps.
Oui.
24 sur 24, World Wide Web.
Exactement. Represent. On est partout dans le monde.
Qui d'autre qu'on a eu? Seb Starr, qui joue dans Ska Sound System, qui joue de la batterie, qui a un petit drum kit valise, là, qui peut jouer du drum n'importe où. Mm. On a eu beaucoup, et j'en oublie, le drummer de... J'ai comme eu une passe de drummer. Le drummer de Reanimator.
Oui.
Frankie Ramone. Fait qu'on a eu plein de beaux invités et on en attend d'autres.
Oui.
Ils cognent à nos portes, là.
Absolument. Là, il y a une file. Faut attendre. Faut être patient, les gens, là.
Exactement.
Donc, votre tour va venir.
Ouais.
Patientez, puis on va vous passer une semaine à un bon épisode du lendemain de la veille.
Quand on va être bien réchauffé, quand on va être bien lendemain de la veille.
D'ici le 200e, il y a quelques places disponibles.
Exactement.
Oui.
Hey, on a écouté, là je veux pas massacrer le nom, j'adore la musique brésilienne, c'est Clube do Balanço.
OK.
C'est le club qui dit que ça se balance, ça veut dire que ça danse. Et c'était, tu sais, l'album s'appelle Swing, Samba et Rock. Fait qu'est-ce que tu veux de plus? T'as tout ça. Et c'était la pièce Paz y Arroz, la paix et le riz.
Ah, miam.
Je sais pas qu'est-ce que
c'est. Un bon plat de paix.
De paix avec un petit bol de riz.
Ouais, avec un petit peu de salsa.
Ça
brésilienne.
Ouais, ça serait quoi de la sauce brésilienne? Tu m'en poses une bonne,
ça doit exister, hein?
Ben oui,
brésilienne.
Ouais. Mais non, je m'en ai dit de la sriracha, de la...
Sriracha.
Sriracha, merci.
Ah oui, ça, c'est moi. Typiquement brésilien, ça, Marc-André.
Ouais, c'est du picante. Non, pas en tout, là, mais c'est de la sauce à la mode, il paraît, à des gens.
Ouais, avec le petit coq, là, sur la bouteille.
Ouais. Moi, je suis encore à apprivoiser le Tabasco, puis la Frank Hot Sauce.
Ah ouais?
Je suis pas encore, puis la sauce HP, je suis pas encore rendu là.
La sriracha?
Ouais.
Ouais, non, c'est next level.
Ouais, ça brûle un peu les papilles.
Ouais.
En parlant de papilles, bon appétit tout le monde, bon déjeuner.
Ouais.
Nous autres, on pète le feu, on boit du petit jus d'orange avec de la grenadine dedans. On est presque rendu au mimosa parce qu'on célèbre. On a le droit.
C'est le 100e épisode.
Ouais, part 2.
Mais pour la deuxième fois. Donc, c'est le 101e, mais c'est pas le 101e.
Exact.
Donc, on est encore dans les festivités du 100e épisode. Donc, un épisode spécial. On a un public avec nous.
Oui. Et qui dit festivité, dit samba.
Samba, exactement. Donc, on a un public ici. Vous l'entendez pas, mais peut-être que le public peut se manifester en applaudissant. Wouhou!
Et là, on vient de briser la règle du Boys Club.
Exactement. Enfin, là, il y a juste trop d'hommes.
On va poser des questions à notre invitée.
Ah ouais?
Parce qu'elle m'a donné une nouvelle que je viens d'apprendre sur la. Ben, qu'elle nous a appris, c'est-à-dire sur la première bande dessinée. Fait que, Alexandra, ça tenterait-tu de prendre le micro deux secondes? Je te présente.
Ben oui, certainement. Peut... Alexandra, qui est notre public invité spécial aujourd'hui pour le 101e épisode spécial.
Faudrait que je retrouve la ressource de Jean-Dominique et son nom de famille, mais participer à un atelier BD aux bibliothèques de Montréal avec des élèves. Et puis, on a appris que finalement, la première trace de bande dessinée en Amérique, ce n'est pas les comics comme on pensait dans les années 1800, mais ce serait vraiment dans les élections du Bas-Canada, un dépliant, une affiche électorale pour les premières élections de Bas-Canada en 1792.
Wow! Fait que le Québec et la... C'est Québec, là. On parle pas de la France, là.
On parle vraiment de au Québec.
All right. On est les premiers.
C'était le Bas-Canada, dans ce temps-là.
Ouais.
C'est comme ça s'appelait.
Il y a le Haut Canada et le Bas Canada.
Ouais. Ouais. Fait que là, ce serait la première BD ever, sa planète.
Ben, il y a quand même des traces. Il y a des gens qui penseraient quand même que les tapisseries comme de Guillaume le Conquérant puis tout ça, ça peut être considéré comme des BD, des traces préhistoriques. Là. Mais là, en Amérique, supposément que ce serait la plus vieille trace de BD.
En Amérique?
Québec represent. Ouais, mais
c'est-tu
sinon,
pas cool, ça?
Ben, c'est excellent. Je savais qu'on était des originators. Ça se dit bien.
Ça fait que ça, c'était avant Tintin.
Merci, Alexandra. Oui. Puis avant, ben, c'est peut-être dans le temps des cigares au pharaon avec les hiéroglyphes. Puis là, elle a parlé des cavernes. Fait que c'est quoi les peintres de rupestre.
Ouais.
Fait que tu sais, tout est dans tout.
Oui, oui, oui. Mais non, c'est super intéressant. Je fais des blagues, mais juste avant l'émission, Alexandra nous a montré sur son téléphone à quoi ça ressemblait cette première BD nord-américaine de 1792.
Y avait-tu de la couleur?
Non, c'était pas en couleur. C'était pas en HD non plus.
Non.
Mais c'était comme une image, c'était comme une scène un peu extérieure avec des bateaux. C'était comme un genre de scène extérieure. Où est-ce qu'on voit des bateaux puis des gens qui travaillent autour du bateau au sol?
Mais ça a l'air presque des croquis d'Hergé dans son alpha.
C'était pas fameux.
Hein? C'est un work in progress.
Ça va pas faire.
Son coup de crayon, on va y repenser.
Ça va l'air d'un projet étudiant de cette époque-là. Mais non, sans blague, c'est quand même impressionnant de savoir ça, qu'il y a cette histoire-là ici. Alors que, tu sais, pendant longtemps au Québec, il se passait pas grand-chose en termes de BD. Tu sais, il se passait des choses, mais c'était pas ici que ça se passait dans le monde, on s'entend.
Ouais.
Alors qu'en Europe, c'était big. Mais là, aujourd'hui, c'est contraire, là. Maintenant, il y a une explosion de...
Exactement. Puis nos auteurs et autrices s'exportent facilement et gagnent des concours au plus grand concours de bande dessinée à Angoulême. Le Québec est présent. En parlant... Bien, regarde, on parle de bande dessinée et là... Je cherche. Naturellement, là, je suis perdu.
Tu cherches quoi, là?
Je cherche une bande dessinée. Elle va me sauter aux âges. Et là... On parle de. C'est drôle qu'on parle de ça et c'est même pas arrangé avec le gars des vues.
Pas vrai?
On célèbre aussi le 40e album d'un tandem qu'on a lu et que vous avez relu étant jeune et moins jeune. Le fameux Gaulois avec un casque à plumes.
Ah oui, je le connais lui.
C'est qui?
Astérix et Obélix.
T'as gagné.
Ben, juste Astérix.
Ouais, c'est juste Astérix.
Ouais, parce qu'Obélix, il est mort.
Il y a un mené. Ben non, il est pas mort.
Il est pas mort?
Ben non.
Il n'y a pas eu une attaque cardiaque? Trop de sangliers?
Trop de sangliers, ouais, dans
le 2024, il me semble qu'on ne mange plus de sangliers. Là,
ouais, c'est pas bon pour le choléra. 40 albums, peux-tu croire?
Wow! Ça, ce que je suis pas capable de croire, c'est que les auteurs sont toujours vivants.
Non. Là, tu perds un point, par exemple. Tu perds un morceau de robot.
Ouais, ça fait un bout qu'ils sont morts. Hein?
Ouais, ben le dernier, c'était Uderzo, qui était celui qui dessinait. Mais encore plus loin que ça, c'est Goscinny, qui a fait Le Petit Nicolas aussi. Qui a eu un énorme succès. C'était pas une bande dessinée, là, mais c'est un livre pour enfants. Puis il avait fait Is No Good. C'était un calife, tu sais, un espèce de Les Mille et Une Nuits, les tapis volants, tout ça.
Ouais, ouais, ouais.
C'était lui qui écrivait, mais c'était pas Uderzo qui dessinait. Je sais pas c'était qui. Fait que Goscinny, pour moi, c'était comme le cerveau derrière Astérix et Obélix. Parce que moi, j'ai relu il y a peut-être 5-6 ans, je me suis presque tout retapé. Et pendant les Jeux olympiques, j'étais en train de lire Astérix et les Jeux olympiques.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'était tellement d'actualité. C'est écrit, je dis un chiffre, là, on va dire.
Des
années 80 environ. Puis... c'était tellement d'actualité, tu sais, c'est le doping dans les Jeux olympiques. Puis c'était qu'est-ce qu'on
c'était exactement
vivait,
ça, ouais.
Puis la politiquerie alentour de ça, fait que c'était parfait. Et là, dans ce nouveau, dans le 40e album, c'est L'Iris Blanc. Et là, le texte, et celui qui remplace Goscinny s'appelle Fab Caro. Il paraît qu'il est bien connu en Europe. Et celui qui remplace le coup de crayon du Derzo, ben ça peut être n'importe quel dessinateur, là, c'est pas très compliqué, même si il y a sa touche personnelle. C'est Didier Conrad qui en a fait quand même plusieurs, là, qui travaillait avec Uderzo dans les derniers temps.
Ah ouais?
Okay. Et là, Astérix, comparé à d'autres séries, c'est que la fille d'Uderzo, elle continue, c'est elle qui s'occupe, bon, on va dire, de la...
La compagnie ou le nom?
Le nom, puis Uderzo, je pense, ça y dérangeait pas que la Les Héritiers continuent la série, tandis que Hergé avec Tintin, il y a vraiment, c'était quand j'en meurs, il n'y a plus de Tintin.
Ça finit là.
Puis ils ont vraiment respecté le choix de l'auteur. Et là, je vais ouvrir une parenthèse là, avant de tomber dans l'iris blanc, c'est que Gaston Lagaffe, sa fille, est en bataille, je ne sais pas si c'est judiciaire, mais
ouais.
Avec c'est Dupuis, je ne me trompe pas. Je ne veux pas faire d'erreur. C'est pas grave. Et, en tout cas, la maison qui produisait les Gaston Lagaffe, Franquin, qui est l'auteur, mm-hmm. a dit, après ma mort, comme Hergé, on arrête ça, on sait la plug, c'est mon bébé, c'est moi. Je vois pas quelqu'un d'autre le continuer. Puis lui, il avait pas une vision mercantile autant que d'autres. Fait qu'il a dit, on arrête ça. Puis ça restait comme ça. Mais là, ils ont revampé Gaston Lagaffe. Ils ont demandé à différents auteurs, dessinateurs, auteurs, de faire du Gaston Lagaffe. Et là, sa fille, qui est l'héritière des droits, est en train de se battre avec, si je ne me trompe pas, c'est Dupuis, qui ont la bande dessinée. Et là, je remets ça au Québec.
Ouais.
On connaît les nombris.
Ouais.
Le dessinateur des nombris.
Ouais.
Ben, c'est lui qui a eu une commande pour faire un Gaston Lagaffe.
Ouais, 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 ouais.
Puis il y a eu quand même des critiques. Je ne dis pas sur la qualité de l'ouvrage, mais il y a du monde qui ont dit on touche pas à, on touche pas à ça.
Mm.
Fin de la parenthèse.
Ouais.
Moi, je vais juste mettre de l'huile sur le feu. Ce matin, on s'élève.
Ben, c'est d'actualité.
C'est d'actualité. Hein? C'est d'actualité. Ouais, c'est d'actualité. On ne sait pas. Peut-être dans les prochaines semaines, on va pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il en est de cette saga-là. Revenons à nos moutons gaulois. L'Iris blanc, c'est quoi? C'est le 40e album, comme je disais. C'est dans la même lignée des Astérix, les classiques, tout ça. Tous les personnages sont là. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises. Et là, il y a l'Iris blanc, ben, dans le fond, c'est un personnage qui s'appelle Vice-Vertu. Tullius Vice-Vertu.
Okay.
C'est inspiré des philosophes grecs pour créer sa méthode de pensée positive.
Ah, OK, c'est cool.
Fait que c'est du PMA. On est dans le PMA.
Positive Mental Attitude.
Et là, les auteurs se sont assis au bureau de Hachette. Et là, ils ont commencé à cogiter sur le scénario. Et là, ils ont eu l'idée que l'empereur Jules César, pour semer la zizanie comme à chaque fois dans le village des irréductibles gaulois, ben il est allé chercher ce personnage-là qui a un développement personnel, qui prône la bienveillance, un régime végétarien, la méditation,
okay.
Les affaires transcendantales, les chakras. Et là, il convainc plutôt la femme du village qui s'appelle Bonne Mine, qui est la femme du chef du village.
Ouais.
Et là... c'est là que la zizanie part. Et le seul qui a une bémol, qui met un frein là-dessus, ben, c'est Astérix.
OK, parce qu'il voit le...
Il voit le stratagème.
C'est ça, exactement.
Il voit le mauvais plan. Et là, les auteurs, qu'est-ce qui a été très drôle, c'est qu'ils sont inspirés, on revient au Brésil, se sont inspirés de l'écrivain brésilien Paulo Coelho, qui a écrit L'Alchimiste, puis... Tous des romans qui sont traduits à peu près en 40 langues puis qui sont vendus à des millions d'exemplaires. Tu sais que c'est pas le but, mais c'est le chemin, la quête. Tu sais, c'est le genre d'affaire que chaque chemin est bon puisqu'il mène quelque part. Hein? C'est le genre de philosophie qui tient pas la route, là, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est... Il y a des très bonnes blagues là-dessus.
Okay.
L'humour était pas aussi forte que Goscinny dans le temps. Je sais pas si ça va être intemporel, mais il y a des très bonnes blagues. Et l'histoire se termine avec un album, là. Tu sais, ça suit pas. C'est un épisode complet.
Ouais.
Fait que moi, ça m'a fait... j'ai pris la bibliothèque, puis Tu sais, je les achèterais pas. Je vois pas comme le dessin, il me renverse plus.
Ouais,
pour mon trip de collectionniste, parce que je les avais quand j'étais petit, j'en ai pas mal. Mais une fois que tu les as lus, je vais aller relire un vieux à la place de lire un récent.
Mais c'est aussi parce que c'est ça, on a connu Astérix depuis notre enfance, depuis qu'on est plus jeune, donc ça a comme resté... Il y a un souvenir aussi par rapport à ça, du fait qu'on a découvert ça quand on était plus jeune. Puis
c'est nostalgique un peu.
Ben ouais, totalement. Là.
Puis, ben c'est ça. Puis, on a découvert d'autres bandes dessinées en cours de route. C'est ça notre mission, de toute façon.
Exact.
Fait que, oui, c'est bon de revenir aux classiques, mais tu sais, il stagne dans une recette.
Ouais.
Tu sais, il y a comme un début de complot. Puis là, nos héros vont le...
C'est sûr.
Ils vont le défaire. Ça, reste, ça finit par un baquet. Puis t'as tous les mêmes personnages. Ben ouais. Fait que l'effet surprise...
Ben non, c'est une recette qui est réconfortante puis que tu veux pas non plus qu'ils changent la patente parce que c'est ça le système Astérix Obélix. Que
exact.
C'est les méchants romains puis qui sont niaiseux puis qu'il y a toujours une nouvelle façon d'essayer de s'immiscer dans le village gaulois.
Ben, c'est exact. Puis c'est drôle parce que le personnage, les auteurs, ils le voyaient jeune. Puis après avoir comme discuté puis tout ça, ils ont commencé à le vieillir. Puis c'est comme un monsieur qui a les cheveux noirs sur le top. Puis sur le côté, tu sais, il a les cheveux blancs. Puis ils sont comme en vague. Puis il y a une espèce de cape verte. Tu sais, c'est un Romain, mais ils l'ont comme pacifié un peu.
Un Romain zen.
Un Romain zen, un peu hippie, ésotérique. Il y a une espèce de collier avec des perles vertes, une cape verte, avec une espèce de petit kilt blanc avec des sandales jaunes. Et pour ça, pour Vice-Vertu, c'est ça son personnage, c'est encore là, tout le temps un jeu de mots avec Vice-Vertu. Fait que l'idée, c'était de... se sont inspirés des... Tu sais, nous, au Québec, moi, j'ai connu un peu moins là, de noms, des personnages flamboyants de la culture française comme Dominique de Villepin, Bernard-Henri Lévy, qui est comme un intellectuel tout ça, français, là, qui est tout dans les débats. Fait qu'ils sont allés faire un amalgame de tous ces
okay.
intellectuels-là, passés du grec à aujourd'hui. Puis, tu sais, il prêche la bonne parole. Mais c'est quand même à lire, puis je pense que les plus jeunes vont quand même apprécier.
Ben, il y a ça aussi, hein. C'est ça qui arrive quand on sort. Ben ouais, c'est ça. C'est un peu comme les nouveaux Star Wars. Tu sais que c'est comment ça va finir, mais.
Attention.
Les nouveaux. La nouvelle génération découvre ça, puis là, c'est.
Attention.
Ça tombe d'actualité.
Moi,
c'est pas un bon parallèle que j'ai fait, là, je suis conscient.
Non, mais c'est vrai. Moi, ça va tout le temps être les trois premiers, les classiques de Star Wars. Mais ils sont en train de me raccrocher, pas par les nouveaux films, mais par les séries comme les Mandalorian.
Ah, ouais, ouais, ouais.
Je trouve quand même qu'il y a une qualité parce qu'ils ont plus le temps d'explorer, de raconter. Ils n'ont pas 2h30, 3h.
Ouais.
Comme dans un film que là, faut qu'il y ait de l'action, faut qu'il y ait un début, une fin, une princesse à sauver, de l'amour, tout ça. Là, ils ont le temps de développer, de placer les pièces pour nous emmener ailleurs. T'sais.
C'est vrai que les personnages sont beaucoup plus multidimensionnels, tu sais, que dans les premiers films où c'est que là, c'était assez simple.
Le bien et le mal, oui.
Ouais, c'est ça. C'était pas très...
Je vais passer ma bande dessinée à Alexandra pour qu'elle s'ennuie.
Ben oui, un Astérix tout frais, tout neuf, qui sent encore le bon magasin.
L'imprimerie.
Oui, l'imprimerie.
C'est plein de pensées positives, tu vas voir.
Ben, ça me donne envie de le lire quand même.
Oh, ouais, non, c'est
même
clair.
Si c'est pas...
Il faut lire.
Ouais. Surtout c'est juste pour le fait que c'est ça. C'est un peu d'actualité.
Hey, en parlant d'actualité, je te dis, Valérie Plante, qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait?
C'est la mairesse de Montréal.
Bravo.
Elle a fait des pistes cyclables, elle a fait d'autres choses. Mais sûrement qu'elle tu vas me parler de sa bande dessinée.
Ah, t'es bon. Ah. C'est juste ça que je voulais dire. C'est tout.
Ah, okay.
Une deuxième bande dessinée pour Valérie Plante.
Ah, tu l'as-tu lu le premier? Tu l'avais lu?
Je l'ai pas lu.
Non, okay.
J'ai vu c'était quoi, ouais.
C'est comme, ça ressemble à Simone de Beauvoir, mais c'est un jeu de mots... Je sais c'est quoi le titre du personnage, le nom du personnage.
Pas important.
Mais le titre, c'est le nom du personnage, je me trompe pas.
Ouais.
Puis c'est comme Simone quelque chose, non?
Simone
là, tu parles de la BD, puis tu connais pas le titre?
Non, ben là, j'ai un blanc pour le premier, mais c'était plus que je viens d'apprendre qu'elle a sorti une deuxième bande dessinée.
Ah, elle est déjà sortie?
Oui.
OK.
Au lieu de faire qu'est-ce qu'elle est supposée de faire.
Ben, elle dessine pas, elle doit pas illustrer.
Non, ça doit être elle, l'autrice.
OK.
Puis quelqu'un dessine pour elle.
On sait pas c'est qui.
Ouais.
On vous revient avec ça?
Oui, on vous revient avec ça.
On fera un spécial une heure.
Peut-être je vais l'avoir oublié. Ou sinon, ça veut venir nous en parler, libre à elle.
Oh!
Venir avec les Kodak, serrer les mains
à
une radio étudiante universitaire, McGill, près de la montagne.
Ouais.
L'invitation est faite à la mairesse.
Oui.
Anthropologue. Une autre affaire. Il y a un groupe qui a vendu son catalogue pour 300 millions de dollars.
Un groupe de musique?
Oui.
Hein? Récemment?
Récemment.
Écoute, j'ai...
Est-ce que le professeur avec nous présente, elle aurait la réponse, non?
Ah, OK, il faut juste donner un indice.
Un groupe qui se maquille.
De quel pays? un groupe américain.
Oui.
Kiss.
Eh oui, t'as gagné.
Ah ouais? Je savais pas. À qui on vend?
100 millions.
À Apple Music ou quoi?
Ben, c'est comme un conglomérat dans un pays d'Europe. Je sais pas si c'est la Suède. ABBA, c'est quoi? C'est Suède?
Oui, je crois
bien. Je pense que c'est la même compagnie qu'il y a à Bosch. C'est en Suède.
Ah.
Ils ont vendu le catalogue, la propriété intellectuelle et il y a un autre terminologique. Dans le fond, ils ont tout vendu. C'est comme s'ils ont plus
de...
Fait que je sais pas comment
Gene prennent leur retraite,
Simmons,
là.
Comment Gene Simmons va faire pour vivre.
Mais j'ai entendu parler d'une histoire de récemment là,
ouais.
Que ils veulent faire des shows avec des personnages virtuels.
Ah, holographique, hologramme.
Ouais. Mais c'est comme des personnages un peu jeux vidéo 3D, là,
okay.
Tu sais, que t'sais, semi-réaliste, là. Ben, quasi-réaliste. Puis que là, ils bougent, tu sais, fait que j'imagine que c'est peut-être des comédiens qui vont comme faire de la vidéo, tu sais, comme qu'ils font au cinéma, là, tu sais, c'est... Il capture la motion. Là,
de... stop motion. Non, pas stop motion.
Motion capture.
Capture.
Ouais, ouais. C'est ça. Fait que, okay. En tout cas, je pense que c'est okay, ça. Puis c'était comme des avatars 3D de Kiss, mais que c'est okay. Pas eux. Puis qu'ils font des shows. Je pense que c'est ça qui est prévu. Mais ça, j'ai vu passer un truc là-dessus. Okay. Fait que là, ça serait plus les vrais musiciens.
Ça serait plus Stanley, Gene Simmons et les deux autres qui sont remplaçables. Parce
exact.
Que... OK.
Fait que ça a peut-être rapport avec ce que tu dis.
Ouais.
Que là, la nouvelle compagnie, ben, comme les vrais musiciens ne seront plus là. Ben, parce qu'en réalité, là, c'est ce que ça veut dire, c'est que là, s'ils ont tout vendu, eux-mêmes ne peuvent plus chanter Kiss.
Ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
À moins qu'il y ait une condition spéciale.
Non, mais il y a une entente. Il y a l'air d'avoir une entente. J'ai lu l'article, je pense que c'était dans Le Devoir ou peut-être même le Journal de Montréal. En tout cas, j'ai lu entre les lignes. Rien d'intéressant. Là, je trouvais ça.
C'est particulier.
C'est particulier. Ouais. Mais c'était pas... OK, il y a la propriété intellectuelle, il y a le nom, tout ça, mais il y avait une autre chose, le droit... comme le droit de création, comme si il léguait aussi...
Parce
admettons que...
que
c'est toi qui l'as inventé. C'est comme si... On revient à Tintin ou Astérix. C'est comme si Tintin... Ouais. Tu vas voir Tintin, mais ça ne dira plus créer ou... par Hergé.
C'est
la manière j'ai compris ça, il y avait comme une espèce de...
Parce qu'ils peuvent ils vont pouvoir continuer à faire du nouveau Kiss,
ouais.
Vu qu'ils ont tous les droits, exact. Et de création, comme tu dis.
Ouais.
Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils vont pouvoir sortir de nouveaux albums.
Oui, sûrement.
Sans les vrais musiciens.
Avec l'intelligence artificielle.
Ils vont... Ben, ouais, ou peut-être des nouveaux chanteurs qui ressemblent...
Ou de la peinture à numéro.
Oui, exactement. Ils peuvent trouver une voix qui ressemble un peu à celle du chanteur.
Oui.
Ouais.
C'est juste spécial.
Ben oui, c'est très spécial.
Très spécial.
Effectivement. Ben j'imagine que c'est juste une façon de tirer la plug puis de dire ben.
On a fini. Puis c'est vraiment leur dernière tournée. Là. C'était pas
c'est
comme
ça.
Un farewell numéro 2.
On dit ben on tire la plug, mais on veut que Kiss continue à vivre.
Ouais.
Mais par d'autres personnes.
Fait qu'ils n'ont pas la mentalité ni de Gaston du créateur de Gaston Lagaffe, ni de RG. Eux autres sont comme Astérix et.
Ouais.
C'est qui l'autre qui continuait? Ben, Gaston Lagaffe, non, parce qu'il ne voulait pas. C'est
ils l'ont fait pareil.
Oui, ils font pareil, les méchants.
Ouais.
Fait que c'est ça. C'est spécial.
Vraiment spécial. Wow. Ouais, on va fouiller.
Quel homme d'affaires, Gene Simmons. Rendons à César ce qui appartient à Gene Simmons.
Ouais.
Hey, j'ai-tu le temps? Vite, vite, avant la pause, j'ai
une minute.
Deux films sur des plateformes. Vite, vite. Je vais juste lancer ça. Tu te rappelles du film Cocaine Bears que j'ai parlé?
Vaguement, oui.
En tout cas, tu ne l'as pas vu. Vous devez le voir, les deux, professeur et élève. Et il y en a un autre qui est sorti. C'est des chiens parlants. Ça s'appelle Vagabonds.
Ah.
Puis, ce n'est pas le chien vagabond, là, le chien canadien.
Mais
là,
le
ouais, qui est sur la route d'un prêtre en Alberta, puis qui est gris, puis qui arrive dans un village. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu? Ouf, ouf, il jappe deux fois. Par où? Ouf, 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 par là. C'est pas ça. C'est des vrais chiens qui parlent, qui sont doublés. C'est de toute beauté pour écouter avec vos jeunes, mais il y a beaucoup de sacs, il y a beaucoup d'affaires.
OK, c'est comme plus pour adultes, là.
Oui, c'est pour adultes, mais c'est drôle.
C'est
drôle.
Vrai?
Oui, c'est drôle.
Comment ça s'appelle?
Vagabonds.
Vagabonds.
Oui, des chiens parlants sur Amazon. OK, là, vite, vite, sur... si je te dis... Emerald Fennell. Je sais pas si je le prononce.
Je ne connais pas. Non, ça ne me dit rien.
Le plus gros succès au Blockbuster l'été passé.
Aucune
idée. Pense à une couleur. À une couleur rose.
Rose. Hein?
On vient de souffler.
Qu'est-ce que c'est, Alexandrin, c'est quoi la réponse?
Barbie.
Barbie.
Eh oui.
Ah, je l'ai pas vu, excusez.
C'est, moi non plus, mais c'est la réalisatrice de Barbie.
Ouais.
Je savais pas que j'allais voir Garwich, un film de la réalisatrice de Barbie. Ça s'appelle Saltburn. Ça a gagné 3 Golden Awards. Non, une nomination pour 3 Golden Awards. Et ça vaut le détour. Moi, je m'attendais à rien. Je pensais que c'était un film banal, adolescent, teenage movie, tout ça. Ce n'est pas ça.
OK.
Puis je veux pas trop faire de spoiler.
Saltburn.
Saltburn, comme du sel qui brûle.
D'accord.
Et là, vite, vite, c'est un conte moderne, diabolique, sur les privilèges des bien nantis et le désir d'avoir des richesses quand t'en as pas. Et ces deux étudiants d'Oxford, Oliver qui invite à passer les vacances d'été dans sa famille aristocratique et un peu excentrique à son ami d'école qui s'appelle Félix, qui lui vient d'un milieu un peu plus classe moyenne.
OK.
C'est, j'en dis pas plus, allez le voir. Si vous n'aimez pas ça, je vous donne mon adresse. Vous avez le droit de tirer des œufs ou des tomates pourrites. Mon adresse est le 666 Neighbor of the Beast.
OK. Fait que
c'est ça. Fait que wow. Saltburn de 2023 de Emerald Fennell, c'est la réalisatrice de Barbie. À cause de ce film-là, je vais aller voir Barbie.
Non, la réalisatrice de Barbie, c'est pas Emerald Fennell. C'est Greta. Non, pas Greta.
Greta Garbo.
Non. C'est l'impression que ça commence par G, son...
Ben, regarde, on va aller en pause.
Ben oui, c'est l'heure de la pause. C'est pas un quiz.
Allez prendre une ouais, c'est un quiz. En revenant, on vous donne la bonne réponse.
Alors, restez sur les ondes de CKUT. Vous écoutez le lendemain de la veille. De retour après la pause.
CKUT.
No matter your disability, you likely face barriers in your everyday life. At Neil Squire, we help break those barriers down by helping you access employment, technology, and the tools you need to live your life to the fullest. As a nonprofit organization, we empower people with disabilities all across Canada, and we are here for you too. Visit neilsquire.ca to learn more.
Le film Carnaval raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est arraché de son île et déposé sur cette planète très étrange appelée Canada.
On oublie tout. Et on recommence.
Il s'agit d'immigration, oui, mais il s'agit surtout de garder son cœur, son âme et sa culture au plus profond de soi, malgré les douleurs que peut provoquer ce déplacement soudain.
S'il te plaît, mamie, je vais aller au Carnaval avec toi.
On vous invite à venir voir Carnaval, un film d'Henri Pardot, au cinéma dès maintenant.
Cette nuit-là.
Yeah! On est de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce musicale du groupe The Brains.
De Montréal.
De Montréal. 514.
514.
Oui.
Si tu dis qui sont The Brains.
Qui sont The Brains?
René de la Muerte, guitare vocale. Colin the Dead, bass et backing vocal. Puis Franco Brains, drum, backing vocal.
Excellent groupe de...
Psychobilly! Hey, une tune en français de Brain, je m'en rappelais même plus.
Ouais.
C'est un album, je l'ai, mais je ne l'ai pas écouté souvent. C'est Zombie Nation.
Ouais.
Super belle pochette, des crânes volants, des brains volants en zombie. Et après cette nuit, en français, et je trouve que René de la Muerte se débrouille très bien en français. Puis ça rock, c'est une super bonne pièce.
Vraiment, oui.
Puis je trouve que c'est bon pour célébrer, parce qu'on a déjà fait jouer. Puis célébrer le 101e épisode avec The Brains.
C'est tout et dans tout. Le 101e épisode.
Ah, du 100. S-A-N-G.
101.
101, la loi.
La loi 101 avec une pièce en français.
Hey.
Du groupe The Brains.
On est au Québec, ça. Hey, tout ça pour dire. Fait que j'avais à moitié raison, finalement.
Oui, pour le film, pas le film Barbie, mais le film Saltburn. Oui. Qui n'était pas réalisé par Greta Gerwig.
Ouais.
Si j'ai bien compris.
Oui.
Mais est réalisé par une autre personne qui a aussi participé à Barbie.
Ah, OK. Ouais. J'ai une moitié de
robot. Moitié de robot.
Hein?
Elle jouait dans
joue
Barbie.
Dedans. OK, la réalisatrice est aussi comédienne. On nous souffle à l'oreille les réponses. Parce
puis elle faisait une amie de Barbie, quelque chose du genre?
Elle ferait comme la Barbie constamment enceinte.
La Barbie enceinte.
Okay.
L'as-tu vu Barbie, toi, Marc-André? Toi non plus, Alexandre.
Ça manque tout à notre culture.
Et là, on parle à travers notre chapeau solide.
Notre chapeau de Barbie rose. Ken ne serait pas content. Girl Power. Hey, ben merci d'être là, Alexandra, puis de nous souffler les réponses.
Ah, sérieux. Hein? Si on était à un quiz, on ferait dur.
On ferait dur, ouais.
Imagines-tu, tous pour un?
Ouais.
Édition
non.
Barbie.
Non, on coule. On coule ou la guerre des clans, spécial Barbie.
Hop là. Non, j'irai pas là avec ma famille.
Eh hey, ben, tiens, tout est dans tout. Je vais vous parler de Barbie qui sont pas artificielles. Ça s'appelle le bal des actrices. Produit par... Moi, j'ai bien de la misère quand je vois les films américains... Attends, je recommence. Je viens de... les K-films américains. Ça me fait tout le temps penser... Il y avait Kmart ou K-pop. Tu sais, il y avait toutes les affaires...
Kmart.
Kmart. Il y a les Kit Kat. Mais il y avait... quand tu disais... Il y avait des albums pour enfants quand j'étais jeune, les années 80.
K-Tel.
Les K-Tel.
Oui.
Fait que t'as le K. Fait que moi, à la minute que t'as K, il y a une connotation de... Kitten.
C'est pas bon.
C'est pas bon. Mais là, le film que je vous parle, ouais. Il est très bon. Il date quand même un peu. Moi, je l'avais pas vu. C'est un film écrit et réalisé par l'autrice, réalisatrice, comédienne. La prononciation, c'est May Wen. May Wen.
May Wen.
C'est M-A-I-W-E-E-N.
Ouais.
Et c'est le bal des actrices.
Qui est, qui est française, si je me trompe pas.
Qui est française, exactement. Ouais. Et c'est entre le faux... pensez que je mets des guillemets avec mes doigts. Entre le faux documentaire, la fiction et la comédie musicale.
Oh, intéressant.
Là, quand tu dis comédie musicale, je vois des les gens sont sceptiques.
Non.
Et les sceptiques seront confondus. Oui, on mange la fondue.
On mange
la fondue ce soir.
Let's go.
Et là, c'est que Maiwen, pour de vrai, elle joue son propre rôle. C'est une comédienne. Et elle a eu, à un moment donné, une espèce de crise existentielle ou une crise, on va dire, peut-être d'imposture. Tu sais, je veux pas paraphraser, je veux pas parler pour elle, mais c'est ce qu'on ressent dans le film. Elle décide de faire un documentaire sur le métier d'actrice. Fait qu'elle va voir toutes les actrices qu'elle connaît, elle les approche, elle leur dit « Est-ce que vous seriez intéressé de jouer dans mon film? » Okay. Puis là, elle dit, ben, c'est qui ton équipe, qui ton producteur? Ben, elle dit, c'est moi. Qui va filmer? C'est moi. Qui prend le son? C'est moi. C'est vraiment un one-woman project. Là, okay, wow. Comme un one-man band, mais là, c'est un one-woman project.
Ouais.
Fait que là, à part avec sa petite caméra, puis elle va sur des plateaux, elle va au théâtre, elle va en répétition, et elle rencontre des actrices là, de métier qui sont connues, moins connues, qui ont des doutes, qui ont des névroses, qui ont des manies, certaines ont des caprices, certaines sont des divas, certaines sont hyper narcissiques, d'autres sont plus naturelles, d'autres sont... Fait qu'ils sont, tu sais, des actrices de tous les âges, de tous les milieux, françaises, parce qu'elles sont sur le territoire de la France. Et là, les thèmes abordés dans ce film-là sont assez intéressants. Tu sais, c'est la femme à l'écran, surtout, là, c'est la femme objet.
Ouais.
La femme qui vieillit à l'écran.
Ouais.
Tout ça. Et là, on parle naturellement de tout ce que ça tout ce qui en découle, la chirurgie plastique.
Mm-hmm.
Fait que Maïwenn, elle suit une des actrices qui va se faire une chirurgie plastique.
OK, wow.
Avec son docteur.
Mais
tout
là,
ça.
Juste pour être certain,
ouais.
C'est pas du documentaire.
Non, mais j'imagine... les actrices jouent ouais. leur propre rôle.
C'est ça, OK, c'est les vraies actrices.
T'as des actrices comme Romane Boringer, qui est la fille du même comédien qu'on a vu dans Les Nuits Fauves, tu sais, des films des années 90 là, qui avaient marqué. T'as Julie Depardieu, la fille de celui qu'on peut plus nommer.
Ah
oui?
Okay.
Ouais, Julie Depardieu est dedans. T'as l'unique, la charmante, la une de mes actrices fétiches, Charlotte Rampling.
OK.
Puis là, t'en as d'autres, des connus, des moins connus. Tu sais, je connais pas tout le star system en France. Là, il y a d'autres actrices qui passent à l'écran, mais moi, ça me dit pas grand-chose. Mais il se livre devant la caméra, mais là, on sait pas s'il joue un rôle. Mais quand elle va voir Charlotte Rampling, c'est à Charlotte qu'elle s'adresse.
OK.
Fait que c'est pas le personnage de...
Ouais.
C'est... Mais peut-être Charlotte Rampling, elle joue son propre... personnage,
ouais.
Tu sais que je veux dire. Fait que c'est tout ça, c'est cette espèce d'ambiguïté entre le réel puis le fictif.
Ouais.
C'est vraiment ça, j'ai bien aimé. Puis, ben, on parle de maternité, de la vie de couple, la vie de famille, qui est dure à, on va dire, enligner ou jongler avec le métier d'actrice, que des fois, sont en France, des fois, sont dans d'autres pays, des fois, c'est des tournages de nuit
ouais.
impossibles.
Des heures
là, ben, faut que t'aies une bonne famille ou un conjoint qui est compréhensible.
Ouais.
Et là, qui serait, d'après toi, le conjoint à cette époque-là de ouais. Maïwenn?
Ben, je connais la réponse. Je peux le dire, là.
Tu peux le dire.
C'était Luc Besson. Non?
Non.
Non,
ah,
okay.
Ben, peut-être à une certaine époque.
Ouais.
Peut-être qu'elle en a eu d'autres.
Ah.
C'est, si je te dis, pose ton gun.
C'était un rappeur français, là.
Ouais, ouais.
Joey Starr.
Oui.
Ah, ouais, ok.
Ouais. Alexandra, donnez, en tant que professeur, vous pouvez donner à côté du nom de Nelson des petites étoiles ou un...
J'ai une étoile.
Un étoile ou un happy face ou un collant.
J'ai jamais eu d'étoile dans mon cahier de toute ma vie.
Tu faisais trop de ratures.
J'étais pas bon à l'école. Ouais. Je faisais trop de ratures.
Tu barbouillais. T'écrivais dans la marche, je faisais des petits dessins.
Ah ouais, je faisais des têtes
de
mort.
C'est Joey Starr qui, de son vrai nom, c'est Didier... la bête, le jaguar. En tout cas, c'est Didier... on va l'appeler Joey Starr. Et là, ben c'est ça. Puis là, c'est très drôle, la complicité entre les deux, parce que dans la vraie vie, c'est Joey Starr, à cette époque-là, qui a convaincu Maïwenn, qui était sa conjointe, de qui s'en remettait en question de « Tu veux le faire, le film? T'attends quoi, là? C'est,
ouais.
c'est quoi? » Il a comme donné le push à... Elle avait peut-être... Tu sais, elle avait comme un manque de confiance en elle, puis ça a fait un bon film. Puis c'est lui qui, dans le film, il en parle.
Ah,
parce
okay.
qu'il joue dedans. Il
okay,
joue
okay,
dedans,
okay.
il est dedans.
Okay.
C'est le seul... À part le producteur de Maïwenn, puis Joey Starr, il n'y a presque pas d'homme. Fait que moi, c'est un film à voir. Et là, le côté... comédie musicale, je disais, ah non, moi j'ai bien de la misère.
Ah ouais?
Mais ça a super bien marché.
OK.
Et qui fait la musique pour Charlotte Rampling à chante?
OK.
C'est Joey Starr.
Pour vrai?
Oui, c'est magique.
Wow.
Juste pour ça, ça vaut la peine.
OK, OK, OK.
À chaque fois qu'il y a une actrice qui a une prise dans tous les styles, comédie musicale, une java, une petite valse, l'actrice bon, ils chantent pas tous, tu sais, c'est plus chanté, puis ils parlent de leur situation, puis là, il y a une musique qui les accompagne, mais il y a comme une chorégraphie, il y a comme une danse, il y a des danseurs qui sont dans la rue, ben le monde va commencer à danser comme Singing in the Rain. Ça a l'air cucu, mais ça fonctionne.
Okay.
Parce qu'il y a un côté très réaliste, puis là, on voit que c'est filmé un peu différemment quand ouais. c'est la comédie musicale, puis c'est des comédiennes. Fait ouais. qu'ils peuvent être sur le plateau d'un film en train de faire ça. Fait que ça, okay. c'est bien agencé.
Ben, c'est intéressant, moi, ouais. je trouve ça vraiment...
Le bal des actrices, et ne croyez pas que c'est un film érotique malgré la pochette, je veux dire, tu sais, un peu aiguichante là, qu'ils ont voulu essayer de vendre. C'est que toutes les actrices sont comme empilées les unes sur les autres, couchées par terre, puis sont nues, mais on voit rien. C'est vraiment ouais. la publicité trompeuse. Là.
Le bal des actrices, te souviens-tu c'était en quelle année? Ça a été
tu peux regarder, je pense.
Tu peux regarder sur la ouais. boîte DVD.
Ben oui, parce que ici c'est comme des potes western.
2009.
2009. On est dans un vidéoclub.
OK. Bon.
Oui.
Excellent. Marc Cassivy, il avait aimé ça?
Oui, si Marc Cassivy a aimé ça.
Écoute, il a sûrement raison. Ce film reste un bonbon acidulé comme on les aime, dans un emballage scintillant.
Ah, du bling-bling.
Bon, ça a l'air qu'il a mangé des bonbons dans le cinéma, ouais. Marc Cassivy, alors qu'il n'a
pas
le droit.
Au ventre.
Bon, mais merci, Marc-André. Ça a l'air vraiment intéressant.
Ouais, ça l'est. Tant qu'à être dans du Joey Starr, hey, là, c'est même pas rangé. Je suis comme dans une rage de binge-age de films que Joey Starr apparaît.
C'est vrai?
Parce que j'en ai déjà parlé. Là, c'est mon nouveau fétichisme. C'est que Joey Starr, moi, je pensais qu'il était juste bon pour faire les bad boys, tout ça. Et il a montré son talent dans divers films, qu'il est capable de faire la comédie, qu'il est capable de... On sait qu'il est capable de faire de la musique, tout ça. Et là, j'ai un film d'action et les Français, dans les polars, dans les films d'action, soit que c'est très bon, soit que c'est très mauvais parce qu'ils essayent de faire un Hollywood ou un film américain et souvent ils se plantent. Quand ils essayent de trop copier qu'est-ce que fait
ouais.
quand tu veux faire l'americano, tu l'as pas. Et là, ils font pas ça, ils font vraiment un polar qui vient pas d'un roman, mais qui aurait pu être venir d'un roman. C'est un film de Frédéric Jardin. Ça s'appelle Nuit Blanche.
OK.
Fait que toi, hier, t'as fait une nuit blanche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es lendemain de la veille.
Lendemain de la veille, CKUT 90,3 FM.
FM Hangover. Fait que c'est un film avec Joey Starr, avec d'autres acteurs que je ne connais pas. Joey Starr a un rôle secondaire. C'est écoutez bien ça. Tu sais, les Français, ils aimaient ça faire des films ripoux. C'était des flics pourris.
Ouais.
Bon, ben c'est un peu ça. C'est un flic dérobe un gros sac de cocaïne à des trafiquants, mais il est identifié au cours de l'opération. Les truands prennent alors son fils en otage.
Opa-like.
Fait que là, c'est avant John Wick. Là, dans John Wick, c'est tu touches pas à son chien. Ben lui, à ce policier ripoux-là, tu ne touches pas à son fils.
Ouais.
Fait que là, Vincent, qui s'appelle le policier, il doit faire l'échange, son fils contre le sac. Tu sais, le scénario à date, c'est pas trop compliqué.
Ben
non, tu viens porter le sac avec de la poudre de perlimpinpin,
ben ouais.
puis le gros caïd te remet ton fils.
Ça finit là. 5 minutes.
Un film de 5 minutes, c'est un court-métrage. Mais ouais. non, faut étirer la sauce.
Ah.
Faut étirer ça pour que ça fasse un film d'1h30. Fait que là, dans cet échange-là, dans une immense boîte de nuit tenue par ce malfaiteur-là, commence le film. Fait qu'il pense aller remettre dans le club de nuit, tout ça. Et là, c'est presque... Au début, ben ça se passe dans les rues de Paris. Mais après ça, ça devient un huis clos dans une espèce de grande, grande discothèque.
Ah, OK.
Puis là, c'est quand même assez intéressant, cette partie-là. Puis...
Ça se passe donc dans une seule nuit.
Ça, exactement. Et il fait
blanche.
Une nuit blanche. Parce que personne dort. Parce
qu'il y avait beaucoup de poudre.
Oui, il y a beaucoup de poudre. Non.
Blanche.
Non, il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a beaucoup de bataille, de sang, d'hémoglobine. Fait que là, ils disent la nuit qui commence sera la plus longue de sa vie. Peut-être même la
dernière.
My
goodness.
Fait que nuit blanche. En anglais, ils ont bien traduit ça. Tu sais, habituellement, nous, on voit les films en anglais, on voit la traduction en français. Puis c'est
White
comme...
night.
Ouais, t'es pas loin. C'est sleep.
Sleepless night. Ouais, parce que nuit blanche, c'est ça que ça veut dire. Hein?
Ouais.
Tu dors pas.
Fait que nous autres, notre émission en anglais, comment ça s'appellerait?
C'est
ben, on sait que c'est The Morning After.
Morning After.
Mais ça, c'est trop gentil. Nous autres, ça serait?
Ça serait The Morning
Hangover.
The sleepless night. Le lendemain de veille, c'est un hangover.
C'est un sleepless night.
Mais nous, c'est le lendemain de la veille.
OK.
Pas pareil.
C'est quoi la nuance?
La.
La.
Le la qui est eu.
Un pronom.
Un lendemain de veille. Ou un lendemain de la veille.
Fait que la veille, t'as pris une brosse ou tu t'es couché tard.
Exactement.
Hey, c'est dur à dire, ça, le matin.
Dans mon cas, je me suis couché tard.
Je vais prendre un petit peu de jus d'orange.
Hey, le film Nuit Blanche, réalisé par Frédéric Jardin, mettant en vedette Julien Boisselier, Joey Starr.
Oui, monsieur. Bah, bah, bah,
grand rappeur.
Ouais.
Serge Riaboukine et Laurent Stocker.
Ça, je ne connais pas.
Aucune idée.
Moi non plus.
Un film de...
Tu l'as dit.
Quelle année? 2011.
Ouais.
Tout action.
Action. Action.
Merci, autour. Marc-André.
1, 2, 3, action.
On écoute une pièce musicale avant la fin de l'émission?
Oui, on y va, on y va.
Ouais?
Let's do it. Skank it, boy. Crank up the volume.
We'll be right back.
Oh yeah! Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT, 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce, Marc-André, de King Chango. King Chango, qui nous vient directement de Venezuela, Colombie.
Ben, le chanteur, hey, la porte du studio s'ouvre. Bon, attends, un fantôme. Parle deux secondes, j'allais fermer la porte du studio.
Ferme la porte, s'il te plaît, parce qu'il y a, un esprit dans le studio avec nous maintenant.
Oui, King Chango, dans le fond, il vient de New York et c'est le chanteur qui est vénézuélien.
Ah oui,
et,
OK.
Et il a son crew, il est multiethnique, il vient de New York.
Ils sont international.
Oui, ils sont international. Il avait joué au festival de jazz gratuit avec, dans le temps de la Coupe mondiale de football.
Ça fait longtemps, ça.
Il y avait des gros ballons de soccer.
J'étais là.
T'étais là, on était là ensemble probablement.
Sans le savoir.
Puis ça se bombardait de ballons, puis c'était Latin Ska flavor, C'était merveilleux. Fait que j'avais acheté l'album et je l'avais trouvé à mon meilleur disquaire à Vancouver, qui est Zulu Records.
Zulu.
Pour la modique somme de 6,98 plus taxes.
My God, du vol. C'était quasiment donné.
Oui, faudrait qu'il l'ait.
Avant la fin de l'émission, on parle d'un roman ou d'une pièce de théâtre. Je ne sais pas trop comment on qualifie ça.
Je vais faire ça vite. Martine à la plage, et ce n'est pas un livre pour les enfants.
Non.
Et ce n'est pas la Martine qu'on connaît. Mais c'est comme il s'est inspiré de cette Martine-là. C'est l'auteur, c'est monsieur...
Simon Boulris.
Eh oui, en stéréo. Je m'offre à Gilbert pour garder sa fille. Il dit oui. Il me trouve assez mûr. Je suis comme un fruit prêt à conduire un char, prêt à garder des enfants. Je vais être la gardienne de Chloé. Ça, c'est la petite voisine. J'haïs les enfants, mais me rapprocher de Chloé, c'est me rapprocher de Gilbert. Gilbert, c'est le voisin, c'est le père de Chloé, 1+1. Et là, il est optométriste. Et là, la jeune fille décide d'avoir...
Martine.
Martine, oui, de son prénom. Le nom du livre décide d'aller le voir assez souvent parce qu'elle a dit qu'elle a des problèmes de vision. Mais là, à la fin, là, c'est comme un running gag et elle a des fonds de bouteille. Tu sais, quand, c'est ce qu'on appelait les fonds de bouteille. Le livre se lit très bien. Il est très court. Tu peux le lire en un après-midi. Il est agrémenté de dessins faits par Luc Paradis. C'est comme des sketchs au crayon à mine. Super réaliste, super détaillé. Et ça pourrait être, comme tu dis, une pièce de théâtre parce qu'admettons, t'as Gilbert, qu'est-ce qu'il dit? Moi, c'est Martine, ce qu'elle dit, puis Gilbert. Fait que c'est comme...
Il y a toujours le nom du personnage.
Qu'est-ce qu'il va raconter. Fait que c'est un idylle entre une jeune femme, fin ado, début, qui tombe amoureux d'un monsieur qui est son voisin. Mais il y a un petit côté... cynique, décapant, l'obsession amoureuse. Je vois ça, c'est assez cinématographique, je trouve qu'il écrit bien.
Ouais.
Fait que c'est un roman qui se lit bien, puis il va commencer à faire chaud, fait que amener Martine à la plage.
Martine à la plage de Simon Boulris.
Eh oui.
Excellent, merci beaucoup Marc-André pour toutes ces recommandations, musique, cinéma et littérature.
Merci Alexandra de nous accompagner dans notre délire.
Pour notre 101e, 100e épisode avec public pour les prochains épisodes. Vous pouvez venir nous voir en direct.
Ouais.
Marc-André, merci beaucoup.
Il y a une vitre en studio. Vous nous regardez, vous êtes dehors, s'il pleut, il neige, les feuilles tombent. Mais nous, on est au chaud et vous autres, vous êtes dehors.
Merci Marc-André. Restez sur les ondes de CKUT 90,3 FM. À la prochaine.
Yeah.
Bye bye.
Bye bye.
It's 9 o'clock in Montreal. You're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. The show starting now is made in Brazil. Your host and programmer, Daniel Shore. Made in Brazil is always broadcast for you on your CKUT 90.3 FM radio in Montreal. On the first Monday morning of every Monday from 9 to 11. So we'll be with you with a list of very nice, prepared exactly for you, of Brazilian music. So stay with us. I hope you enjoy. We are starting listening to Barbatux from the CD Corpo do Som, and the song is Dumangi Amanga.